Prologue.
Et les châtiments annoncés, les malédictions lancées du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers, avaient continué de rouler sur la France. Le destin abattait les rois comme des pièces d'échecs. Après Philippe le Bel, foudroyé, après son fils aîné, Louis X, au bout de 18 mois assassiné, le second fils, Philippe V, paraissait promis à un long gouvernement. Or, à peine 5 années écoulées, Philippe V mourait à son tour avant d'avoir atteint 30 ans. Arrêtons-nous un instant sur ce règne qui ne se présente comme un répit de la fatalité qu'en regard des drames et des écroulements qui allaient lui faire suite. Règne pâle, semble-t-il, à celui qui feuillette l'histoire d'un geste distrait, sans doute parce qu'il ne retire pas de la page sa main teinte de sang, et pourtant. Voyons de quoi sont faits les jours d'un grand roi quand le sort lui est contraire. Car Philippe V, le long, pouvait compter au nombre des grands rois. Par la force et par la ruse, par la justice et par le crime, il avait, jeune homme encore, saisi la couronne mise aux enchères des ambitions. Un conclave emprisonné, un palais royal enlevé d'assaut, une loi successoriale inventée, une révolte provinciale brisée par une campagne de 10 jours, un grand seigneur jeté en cachot, un enfant royal tué au berceau, du moins à ce que chacun croyait, avait marqué les rapides étapes de sa course au trône. Le matin de janvier 1317, où toute cloche sonnant dans le ciel il était sorti de la cathédrale de Reims, le deuxième fils du roi de fer possédait d'évidentes raisons de se penser triomphant et libre de reprendre la grande politique qu'il avait admirée chez son père. Sa turbulente famille s'était par obligation inclinée. Les barons matés se résignaient à son pouvoir. Le Parlement subissait son ascendant et la bourgeoisie l'acclamait, tout à l'enthousiasme d'avoir retrouvé un prince fort. Son épouse était lavée des souillures de la tour de Nesle. Sa descendance semblait assurée par le fils qui venait de lui naître. Le sacre, enfin, l'avait revêtu d'une intangible majesté. Rien ne manquait à Philippe V pour jouir du relatif bonheur des rois, et pas même la sagesse de vouloir la paix et d'en connaître le prix. 3 semaines plus tard, son fils mourait. C'était son seul enfant mâle, et la reine Jeanne, désormais frappée de stérilité, ne lui en donnerait plus d'autre. Au début de l'été, une famine ravagea le pays, jonchant les villes de cadavres. Puis, bientôt, un vent de démence souffla sur toute la France. Quel élan aveugle et vaguement mystique! Quel rêve élémentaire de sainteté et d'aventure! Quel excès de misère, quelle fureur d'anéantissement poussèrent soudain garçons et filles des campagnes, gardiens de moutons, de bœufs et de porcs, petits artisans, petites fileuses, presque tous entre 15 et 20 ans, à quitter brusquement leur famille, leur village, pour se former en bande errante, pieds nus, sans argent ni vivre. Une incertaine idée de croisade servait de prétexte à cet exode. La folie, en vérité, avait pris naissance dans les débris du temple. Nombreux étaient les anciens templiers que les prisons, les procès, les tortures, les reniements arrachés sous le fer rouge et le spectacle de leurs frères livrés aux flammes avaient rendus à demi fous. Le désir de vengeance, la nostalgie de leur puissance perdue et la possession de quelques recettes de magie apprises de l'Orient en avaient fait des fanatiques, d'autant plus redoutables qu'ils se cachaient sous l'humble robe du clerc ou le sarrau du tâcheron. Réformés en société clandestine, ils obéissaient aux ordres, mystérieusement transmis du grand maître secret qui avait remplacé le grand maître brûlé. Ce furent ces hommes-là qui, un hiver, se muèrent soudainement en prêcheurs de village et, pareils aux joueurs de flûte des légendes du Rhin, entraînèrent sur leurs pas la jeunesse de France. Vers la Terre Sainte, disaient-ils, mais leur volonté véritable était la perte du royaume et la ruine de la papauté. Et le pape et le roi demeurait également impuissant devant ces hordes d'illuminés qui parcouraient les routes, devant ces fleuves humains qui grossissaient à chaque carrefour, comme si la terre de Flandre, de Normandie, de Bretagne, de Poitou avait été ensorcelée. 10 000, 20 000, 100 000, les pastoureaux marchaient vers de mystérieux rendez-vous. Prêtres interdits, moines apostats, brigands, voleurs, mendiants et putains se joignaient à leurs troupes. Une croix était portée en tête de ces cortèges, où filles et garçons s'abandonnaient à la pire licence, au pire débordement. 100 000 marcheurs en guenilles, qui entrent dans une ville pour y demander l'aumône, ont vite fait de la mettre au pillage. Et le crime, qui n'est d'abord que l'accessoire du vol, devient bientôt la satisfaction d'un vice. Les pastoureaux ravagèrent la France pendant toute une année, avec une certaine méthode dans leur désordre, n'épargnant ni les églises ni les monastères. Paris affolé vit cette armée de pillards envahir ses rues, et le roi Philippe V, d'une fenêtre de son palais, leur adressait des paroles d'apaisement. Ils exigeaient du roi qu'il se mît à leur tête. Ils prirent d'assaut le Châtelet, assommèrent le prévôt, pillèrent l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, puis un nouvel ordre, aussi mystérieux que celui qui les avait assemblés, les lança sur les chemins du sud. Les Parisiens tremblaient encore que les pastoureaux déjà inondaient Orléans. La Terre Sainte était loin. Ce furent Bourges, Limoges, Saintes, le Périgord et le Bordelais, la Gascogne et l'Agenais qui eurent à subir leur fureur. Le pape Jean XXII, inquiet de voir le flot se rapprocher d'Avignon, menaça d'excommunier ses faux croisés. Ils avaient besoin de victimes. Ils trouvèrent les Juifs. Les populations urbaines, dès lors, applaudissant au massacre fraternisé avec les pastoureaux. Ghetto de Lectoure, d'Auvillard, de Castelsarrasin, d'Albi, d'Auch, de Toulouse. Ici, 115 cadavres, ailleurs, 152. Pas une cité du Languedoc qui n'ait eu droit à sa boucherie expiatoire. Les Juifs de Verdun-sur-Garonne se servirent de leurs propres enfants comme projectiles, puis s'entr'égorgèrent pour ne pas tomber aux mains des fous. Alors le pape à ses évêques, le roi à ses sénéchaux, donnèrent ordre de protéger les Juifs, dont les commerces leur étaient nécessaires. Le comte de Foix, se portant au secours du sénéchal de Carcassonne, dut livrer vraiment une bataille rangée où les pastoureaux, repoussés dans les marécages d'Aigues Mortes, moururent par milliers, assommés, percés, enlisés, noyés. La terre de France buvait son propre sang, engloutissait sa propre jeunesse. Clergés et officiers royaux s'unirent afin de pourchasser les rescapés. On leur ferma les portes des villes, on leur refusa vivres et logements, on les traqua dans les passes des Cévennes, on pendit tous ceux qu'on captura par grappes de 20, de 30 aux branches des arbres. Des bandes errèrent encore pendant près de 2 ans, et il alla s'en perdre jusqu'en Italie. La France, le corps de la France, était malade. À peine apaisée, la fièvre des pastoureaux apparut celle des lépreux.